Radio Okapi.
Les femmes du territoire de Masisi au Nord Kivu alertent sur la dégradation de la situation sécuritaire dans leurs entités. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, elles ont adressé un message écrit au chef de l'État contenant plusieurs recommandations pour une solution à la guerre. 50 ex-otages des rebelles des ADF, dont des enfants, ont été remis ce week-end à leur famille à Beni par la fondation américaine Bridgeway. La plupart de ces ex-otages, dont l'âge varie entre 6 mois et 35 ans, avaient été recrutés de force par ces rebelles. L'invité de ce journal est Jean-Marie Kanda, professeur à la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi et membre du conseil d'administration du conseil congolais de la batterie. Il nous parle de la production des batteries électriques en RDC. Madame, messieurs, bonjour. Grâce à Mzati Masanzi est à la présentation. Nord Kivu pour commencer. Les femmes du territoire de Masisi tirent la sonnette d'alarme sur la dégradation continue de la situation sécuritaire dans leurs entités. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, elles ont remis à l'administrateur du territoire assistant, le commissaire supérieur principal Mata Dizola Rémy, un message écrit à l'intention du chef de l'État. Plusieurs recommandations y sont contenues pour une gestion efficiente de la guerre à la base du déplacement de nombreux ménages. On écoute Viviane Mutima Bahunga, représentante des femmes de Masisi, dans cette extrait choisi par Chris Mukand.
Nous, femmes de Masisi, ne cesserons de déplorer le désordre dans la chaîne de commandement de la gestion de la guerre. Excellences, Monsieur le Président, nous vous suggérons d'attaquer l'ennemi et ne pas attendre que l'ennemi nous attaque. Afin de mettre un terme à cette barbarie nous imposée par le Rwanda et permettre aux populations de rentrer dans leurs milieux respectifs, d'appliquer la peine de mort contre tous les traîtres à tous les niveaux, mettre en place une seule chaîne de commandement afin de bien gérer cette guerre, revoir la ligne budgétaire affectée à la guerre, considérer des auteurs de détournement au même titre que les traîtres, réduire les traits de vie de toutes les institutions de la République en faveur de la défense du territoire national, rompre automatiquement toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda, enfin, non-négociation avec l'ennemi.
Et puis en Ituri, la coalition associative résolue pour la défense des droits humains CRDH dans les territoires d'Irumu dit constater que le M23 progresserait vers la commune rurale de Kanyabayonga au Nord Kivu. Dans son bulletin d'information de ce samedi, cette organisation spécialisée dans le monitoring sécuritaire s'indigne de l'avancée de ces rebelles vers le Grand Nord après avoir pris le contrôle de plusieurs villages. Le coordonnateur de la coalition associative résolue pour la défense des droits humains, Christophe Mouniaderou, le dit à Marcel Kizabiamungu.
Aujourd'hui, ces M23 sont à la porte de Kanyabayonga, la limite du territoire de Rutshuru et de Lubero. Donc, Lubero, Butembo, Beni et Lituri sont en danger plus pur encore, car ça sera pour eux facile de conquérir Beni et Ituri. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à tous les jeunes de la province de Lituri, et surtout ceux-là qui sont dans des groupes armés locaux, dits d'autodéfense. La situation du M23 dans le Nord Kivu n'épargne pas Lituri. D'éviter à nous entretuer, et nous devons consolider et toutes ces forces, sans une division quelconque, pour aider la République. Nous devons barrer la route aux M23 à partir de Kanyabayonga.
Nous le disions dans les titres, au Nord Kivu, 50 ex-otages des rebelles des ADF, dont des enfants, ont été remis ce week-end à leur famille à Beni par la fondation américaine Bridgeway. La plupart de ces ex-otages, dont l'âge varie entre 6 mois et 35 ans, avaient été recrutés de force par ces rebelles. André Kitenge pour les détails.
Ces ex-otages avaient été enlevés par les rebelles des ADF dans plusieurs villages du territoire de Beni. Certains ont passé une année en captivité, 3 ans pour d'autres et jusqu'à 10 ans pour d'autres encore. Lors de la cérémonie de remise à leur famille ce vendredi à la mairie de Beni, l'émotion était vive aussi bien pour ces ex-otages que leurs parents. C'est le cas de cette fille qui a 17 ans aujourd'hui alors qu'elle n'en avait que 12 ans au moment de son enlèvement.
Je suis très contente, WHG et Bridgeway
Direction nous ont bien gardés et encadrés. Je ne savais pas que j'allais retrouver une vie normale comme celle-ci. Maintenant, je vais regagner ma famille à bonne santé. Nous félicitons le gouvernement pour nous avoir aidés à quitter la bourse.
Le père de cet enfant n'a pas caché son émotion de revoir sa fille 5 ans après avoir perdu tout espoir. Norbert Katembokombi.
Je suis plein de joie de revoir mon enfant qui était pris en otage depuis longtemps sans le revoir. Je n'avais plus d'espoir, mais aujourd'hui, nous sommes pleins de joie de voir nos enfants revenir en famille. Et je dis merci au FARDC et à toute l'équipe comme celle des prix du Way, je leur dis merci.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Province du Tanganyika, 4 candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que 24 candidats sénateurs se sont fait enregistrer aux prochaines élections. Les listes sont affichées devant les bureaux de la CENI à Kalemi. Paul Mounanga nous en dit plus.
Parmi les 4 candidats gouverneurs du Tanganyika, 2 sont des indépendants. Il s'agit de Christian Kitungwa et Emmanuel Kabila. Quant à Ferdinand Massamba Wamasamba, il est candidat gouverneur de l'AFDCA. Nadine Katumbwe Banza, l'unique femme candidate, est élue de PES Tshisekedi. Notons que sur les 24 candidats sénateurs qui vont concourir pour 4 sièges pour la province du Tanganyika, la moitié d'entre eux sont des indépendants. 5 femmes se portent candidates au poste de sénatrice. Signalons que l'actuel gouverneur du Tanganyika n'est pas candidate à sa propre succession. Dans son chronogramme relatif aux élections des sénateurs, gouverneur et vice-gouverneur des provinces, la CENI fixe la date du 21 avril prochain pour l'élection des sénateurs et du 28 avril pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'Assemblée provinciale du Congo central doit élire un gouverneur qui répondra réellement aux attentes de la population. C'est l'une des recommandations du comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo, composé des présidents communautaires et des représentants provinciaux des communautés membres de l'ECC. Recommandation formulée à l'issue de la 44e session ordinaire de cette organisation, tenue à Matadi du 7 au 8 mars, axée sur la persévérance. Selon le président du comité exécutif provincial de l'ECC, l'objectif est d'attirer l'attention des gouvernants et gouvernés sur la situation politique, économique, socioculturelle et sécuritaire du Congo central. Les recommandations sont lues par le révérend Samuel Makonko au micro de Nana Plurichimambo.
Que la nouvelle Assemblée provinciale, qui a le devoir civique et constitutionnel d'élire les gouverneurs et vice-gouverneurs, élise un ticket qui va réellement répondre à l'attente du peuple Congo. Que l'Assemblée provinciale conjugue des efforts pour que la retenue de 40% continue comme cela a été vécu au cours de cette dernière année. Que le gouvernement provincial qui sera nommé soit composé de filles et fils qui connaissent les réalités de la province. Renforce les contacts avec le gouvernement central pour que ce programme de développement des 145 territoires continue d'être opérationnel au travers le Congo central.
Dans l'actualité, sachez aussi que la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC a lancé ce samedi à Kinshasa la campagne intitulée « Tous contre la corruption pour la réduction du train de vie des institutions ». Pour le porte-parole de cette structure, Jean Bosco Pouna, cette initiative vise à assainir le secteur des finances publiques du pays afin de renflouer les caisses de l'État. Il est persuadé que cela fera que le gouvernement paye des salaires décents aux agents et fonctionnaires publics appelés à participer au développement du pays. Les propos de Jean Bosco Pouna recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
L'application d'une politique salariale ne peut être possible que si nous luttons contre la corruption et le détournement des fonds publics à tous les niveaux, ainsi que la réduction du train de vie des institutions. Voilà pourquoi nous lançons ce jour la campagne dénommée « Tous contre la corruption et tous pour la réduction du train de vie des institutions ». La synergie des organisations syndicales et sociales demande au président de la République de se référer au barème du président Kasavubu qui donnait 300 dollars aux huissiers et 3 000 $ au secrétaire général. Avec une volonté politique avérée, c'est possible de changer la vie de ses concitoyens.
Cette synergie est composée des organisations syndicales des enseignants, des médecins, des agents de carrière, des services publics de l'État et autres. Direction la province du Sud Kivu où la société civile environnementale émet ses inquiétudes quant aux disparités financières en faveur du bassin du Congo en RDC. Elle exige des sanctions exemplaires à tous les détourneurs des fonds destinés à la protection de l'environnement. Déclaration faite à Bukavu ce samedi au cours de la restitution de la COP28. C'était en présence de toutes les parties prenantes des deux Kivu et du Maniema. Les propos de Josué Aruna, président de la société civile environnementale, sont recueillis par Emmanuel Elamejoa Kabili.
Exprimons nos vives inquiétudes quant aux disparités financières observées en faveur du bassin du Congo, particulièrement en RDC, et au regard de la contribution des forêts à la stabilité planétaire et le menace qui pèse sur ces patrimoines forestiers inestimables, principalement la déforestation, la dégradation des forêts, les changements climatiques, l'exploitation minière, l'agriculture non durable, la nécessité urgente de trouver un équilibre entre la conservation et la souveraineté alimentaire, la transition énergétique et les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Au gouvernement congolais, nous recommandons que le gouvernement honore ses engagements en contribuant financièrement au Fonds mondial pour la nature. Que la gestion des fonds reçus par la RDC se passe dans la transparence et l'inclusivité. De sanctionner les détourneurs de fonds dédiés à la protection de l'environnement en République démocratique du Congo.
Cette autre nouvelle, dans la province de la Tchopo, la division provinciale des transports et voies de communication a lancé ce samedi à Kisangani l'opération d'identification des motocycles et tricycles. L'objectif poursuivi est notamment de permettre à ces services étatiques de disposer d'un fichier reprenant les détenteurs des engins dans la province et surtout de lutter contre l'insécurité causée par certains inciviques. Ces derniers se font passer parfois pour des conducteurs de taxi-moto et commettent des forfaits. Danny Mongo, chef de division provinciale des transports et voies de communication, explique le bien fondé de cette opération au micro de Jacques Mukonkole.
Il faut qu'ils soient vraiment identifiés pour connaître qui fait quoi. Ça va aider même les services de sécurité lorsqu'il y a un débordement et on peut recourir facilement et retrouver. Et on produit une carte sécurisée et biométrique. Les motards peuvent même ajouter encore des personnes si lui-même n'est pas là. On est en train de faire le travail des taxis, même si on vole la moto et il a la facilité de retrouver. Et c'est maintenant que nous aurons un fichier fiable. Et dans la province de la Tchopo, nous avons 50 ou 40 000 motards. Nous demandons seulement à tous les motards de passer à la division des transports, voies de communication et des enclavements pour leur identification. Ils vont être avec leur carte de lecteur, avec les frais qu'on a mis, et ils passent à cette opération. Ce que nous voulons d'abord, c'est avoir un fichier fiable pour les motards, leur demander aussi d'être en ordre vis-à-vis de l'État congolais, c'est-à-dire qu'ils doivent payer leurs taxes.
Actualité internationale.
En Centrafrique, Léonard Mbélé, préfet de la Vakaga, assure que les forces armées centrafricaines FACA, appuyées par les partenaires russes, allusion aux mercenaires des Wagner, ont repris aux rebelles de la coalition des patriotes pour le changement CPC la ville de Sikikédé dans l'extrême nord-est du pays qu'ils avaient investi le même jour à l'aube. Les rebelles de la CPC ont fui en laissant derrière eux au moins 18 morts, des blessés et deux véhicules incendiés, assure le responsable. La veille, le porte-parole rebelle avait quant à lui revendiqué une quinzaine des FACA tués. C'est la deuxième fois en moins d'une année que cette ville passe des mains de la rébellion à celle des forces loyalistes dans une zone frontalière du Tchad et du Soudan en proie à des violences récurrentes.
L'invité.
Il s'agit de Jean-Marie Kanda. Il est professeur à la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi. Il est aussi administrateur et membre du conseil d'administration du Conseil congolais de la batterie. Il revient sur ce qui a été déjà fait et ce qui reste à faire pour la production des batteries électriques en RDC. Le professeur Jean-Marie Kanda s'entretient avec Jean Gandou.
Professeur Jean-Marie Kanda, bonjour.
Bonjour.
Une année après la nomination des membres du Conseil congolais de la batterie, où en est-on ce jour?
Toute l'année 2023 a été orientée sur l'installation du Conseil congolais de la batterie, l'élaboration de tous les documents administratifs de gestion et des orientations stratégiques et les lancements de quelques études qui pouvaient être considérées comme des aides à la décision, notamment une étude commandée par le Conseil congolais de la batterie à un bureau d'études congolais Bicotine. Au-delà de ça, avec le ministère de l'Industrie par le truchement de M. le ministre Julien Paloukou et tous les partenaires techniques et financiers du ministère de Mines sur le projet du développement de la chaîne des valeurs des batteries, une autre étude a été commandée à Eurize sur le développement de la zone économique spéciale. Fort des conclusions de ces deux études-là et des documents internes des gestions, feuilles de route, plans stratégiques reposant sur le plan d'industrialisation de la RDC et des autres documents qui proviendraient des parties prenantes, le CCB a élaboré à ce jour quelques pistes de sa stratégie et du positionnement de la RDC sur le développement de la chaîne des valeurs, ce à quoi en 2024 le CCB va se déployer pour l'opérationnalisation et le lancement de certaines activités.
Est-ce qu'on peut connaître quelques-unes des pistes qui ont été élaborées?
D'emblée, j'aimerais dire que la recommandation principale est de pouvoir aujourd'hui attirer des investissements pour garantir le raffinage des métaux qui sont produits en RDC et à ce jour principalement le cobalt. Sur ce, le CCB va dans les jours qui suivent avoir des pourparlers avec les opérateurs miniers produisant le cobalt, avec Kisenge Manganèse, avec le Service géologique national du Congo pour explorer les potentiels sous le nickel et au-delà de ça avec l'entreprise générale du cobalt. Donc, et au-delà de ça, le positionnement et la localisation de la zone économique spéciale.
On a parlé d'une zone qui se situerait dans le territoire de Kipushi, dans le Haut-Katanga.
Au-delà de Kipushi qui avait été exploré pour des contraintes techniques, ça n'a pas pu se faire. Soit le foncier était sous le coup de quelques titulaires des permis d'études ou des permis de recherche. Eurize a pu visiter le site de Sakanya. Par rapport à leur étude, ils ont trouvé que le site de Sakanya ne répondait pas à certaines exigences de développement de la zone économique. La province du Haut-Katanga avait aussi attribué un site à 37 km de Lubumbashi sur la route Kasenga. Et ce site-là a été aussi momentanément mis de côté pour certaines contraintes parce qu'il y a un écosystème qu'il faille développer. Pour l'instant, d'après les conclusions de l'étude de Rise, il y a un site dans le Lualaba qui a été défini au regard du cobalt qui est produit, du projet du corridor de l'Obito, de l'accès au chemin de fer ou de l'intense activité minière qui se fait là-bas parce que dans une approche holistique, les problèmes d'énergie ou d'infrastructure se posant à ce jour, le Lualaba paraît au regard de l'étude de Erais, le site qui semble avoir un meilleur score en termes de choix d'un foncier où pourrait être érigée une zone économique spéciale.
Et c'est-à-dire que la première batterie n'est pas pour demain.
Comme vous le savez, investir déjà dans la construction d'une raffinerie prend du temps et au-delà de ça, une fois que la raffinerie est montée et que le métal raffiné a la qualité d'aller dans la fabrication de batteries se fait, et donc il y a une autre étape de faire les matériaux actifs des cathodes et puis faire des précurseurs, élaborer des anodes, l'électrolyte, faire des cellules, les assembler, etc. Donc la batterie n'est pas pour demain. Comme on voudrait faire appel à ceux qui ont déjà la main et qui sont dans le monde de la batterie, le délai n'est pas de 12 mois, mais le plus important c'est déjà de commencer d'attirer. Au moment où les investissements se feront sur les constructions d'une ou de deux ou de trois raffineries, l'amélioration de la desserte énergétique devra aussi se faire, la construction des compétences en termes de main d'œuvre se fera aussi, et puis d'autres structures seront mises en place pour faciliter les investissements.
Jean-Marie Kanda, je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean Gandou.
Notre invité, le professeur Jean-Marie Kanda, répondait aux questions des Jean Gandou depuis Lubumbashi. C'est la fin de ce journal coordonné par Noëlla Luzitukabambi et mis en onde par Alain Goy. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci pour la confiance accordée à la fréquence de la paix.